48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Tous, c'est notre nouveau numéro de ce mag. Salut Fredo.
Salut, le numéro 80 quand même, respect.
Tout à fait, ouais. On bosse hein, quand même dans ce
Ah,
vidéo.
C'est dingue. Pour des associatifs, franchement.
Voilà, aujourd'hui, donc, une émission un peu spéciale puisque nous accueillons Aurélie Mayol qui est donc attachée parlementaire d'Alain Bertrand, sénateur de la Lozère. Bonjour Aurélie.
Bonjour Nicolas.
Et puis, en deuxième partie d'émission, nous accueillons. Très connu dans nos studios, puisqu'il vient souvent, oui. Thierry Arnal, directeur artistique du Théâtre de la Mauvaise Tête.
Bonjour, 48 FM.
Bonjour Thierry. Eh ben, on va commencer tout de suite avec Aurélie Mayol. Alors, on va parler du Sénat sans en parler. On va aborder la question, comme tout le monde l'a abordé ces jours-ci, dans différentes émissions et ce week-end. Le rôle du Sénat, quoi ça sert, comment c'est composé. Et puis surtout, le rôle d'attaché parlementaire, c'est un travail à temps plein, même voire plus qu'un temps plein.
Tout à fait.
Aurélie, voilà. Donc c'est important d'en parler, puisqu'il y a, c'est vrai, au Sénat, il y a les sénateurs, mais il y a aussi beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de gens qui sont attachés à ces sénateurs et qui travaillent souvent dans l'ombre, mais qui font un gros, gros travail. Alors peut-être, Aurélie, pour commencer, nous présenter un petit peu ce que c'est que ce Sénat. Il a été créé en 1795,
oui.
C'est ça ?
1795, donc d'abord je tenais à vous remercier de parler du Sénat, parce qu'effectivement le Sénat on en parle le week-end des élections tous les trois ans, ouais, ou alors quand le Sénat ne suit pas un projet de loi proposé par sa majorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de droite ou de gauche. Donc merci de faire une émission sur cette institution importante pour la France. Donc effectivement, comme tu le disais Nicolas, le Sénat a été mis en place en 1795. Et ce que je pense important de rappeler, c'est qu'il a été mis en place pour protéger la Constitution. Les Français, à l'époque, étaient dans une période un peu trouble qui a suivi la Révolution française. Et traumatisés par la période qu'on a appelée la Terreur, ils ont choisi de mettre en place, comme ce qui existait déjà en Angleterre, une chambre qui avait pour fonction principale de contrôler l'action en Angleterre du roi et en France
du gouvernement.
Tout à fait. Donc l'esprit des constituants à l'époque, c'était de créer une deuxième chambre pour faire barrage à la dictature d'une assemblée unique, ce qui était le cas jusqu'en 1795. Et dès lors, ils ont créé un conseil qu'ils ont choisi d'appeler le Conseil des Anciens, puisque l'âge minimum pour pouvoir siéger dans cette institution, et à l'époque c'était un âge assez avancé, on va dire, était 40 ans. D'où peut-être la réputation des sénateurs d'être âgés, déjà, ça doit venir de leur histoire, en fait, puisque...
On a plus que doublé l'âge, là, non?
Non, pas tout à fait. Je connais pas l'âge moyen des sénateurs, mais ça doit être aujourd'hui autour de 60 ans.
Et donc, il y a un âge minimum, effectivement, pour être sénateur?
Oui, exactement. Alors, jusqu'à récemment, c'était 40 ans, et puis là, maintenant, c'est 25 ans, et ce week-end a été élu le plus jeune sénateur de France, qui a 26 ans.
Ouais. Voilà. Donc, on peut être sénateur et jeune.
Oui, bien sûr. C'est pas un poste réservé aux personnes âgées. Au contraire, et puis, ça souffre un peu de sa réputation, mais ça a beaucoup d'intérêt, peut-être même qu'il est plus intéressant d'être sénateur que député, puisque quand on est sénateur, l'ambiance du Sénat n'est pas autant soumise, j'allais dire, aux pressions des groupes auxquels on appartient, puisque les sénateurs, en fait, siègent en groupe. Donc il y a le groupe majoritaire, donc on va prendre, pour expliquer rapidement l'état actuel du Sénat, aujourd'hui le groupe majoritaire c'est le groupe UMP, ensuite vous avez un groupe centre-droit. Vous avez un groupe RDSE, qui est d'ailleurs le groupe où siège le sénateur Alain Bertrand, qui rassemble à la fois des socialistes, des radicaux de gauche et un ancien communiste que tout le monde connaît qui s'appelle Robert Hue. Donc c'est un groupe assez...
Assez éclectique.
Il n'est pas mort,
mais...
Robert Hue.
non, il siège au Sénat. Qui, en fait, se retrouve sur des valeurs, sur les valeurs républicaines, laïcité, voilà. Et puis, ensuite, il y a le groupe CRC, donc communiste. Et puis, les sénateurs non inscrits, c'est-à-dire qu'eux n'appartiennent à aucun groupe. Voilà.
Ils sont minoritaires, ils sont importants, ceux-là ?
Non, ils sont vraiment... C'est un petit groupe.
Alors, en 2011, ils étaient 7.
Oh là, cette culture.
Et donc, on ne sait pas... À l'heure où on parle, on ne connaît pas encore la composition définitive des groupes, ouais. Puisque, par exemple, la question se pose pour les sénateurs Front National. Et donc, quel groupe vont-ils siéger ?
On aimait cela.
Puisque le nombre minimum de sénateurs pour constituer un groupe, c'est 10. Donc, ils ne peuvent pas constituer de groupe à eux seuls. Ils vont certainement siéger au groupe des non-inscrits.
On imagine.
D'accord.
Voilà.
On imagine qu'on ne se bat pas pour récupérer quand même le Front National dans son groupe. Enfin, en tout cas, j'espère.
Donc, un peu d'histoire. Merci.
Avec plaisir.
Aurélie.
C'est important de connaître l'histoire du Sénat pour pouvoir contrebalancer un peu sa réputation. Et
oui,
dire que le Sénat a une fonction, c'est-à-dire qu'il est là pour contrôler essentiellement l'action du gouvernement. Et en parallèle, évidemment, pour voter les lois.
Voilà. C'est vrai que les médias, ce week-end...
Discussion et vote de la loi. Donc c'est aussi,
tout à fait.
La discussion, elle porte...
Soit elle part d'un projet de loi qui est proposé par le gouvernement,
voilà.
Soit elle part d'une proposition de loi qui peut être proposée par un député ou un sénateur.
Ou un sénateur.
Voilà. Donc si le projet de loi, le parcours en fait de la loi, le projet de loi est forcément déposé en premier lieu devant l'Assemblée nationale. Qui vote, qui amende le projet de loi,
qui discute
exactement, qui le transfère ensuite au Sénat.
Pour une relecture, c'est ça ?
Non, pour une discussion, sur le texte. D'accord. Qui a été transmis par l'Assemblée nationale. Donc effectivement, ce n'est pas forcément le même que celui qui a été transmis déjà par le gouvernement. Il a pu être modifié par l'Assemblée nationale. Donc les sénateurs se prononcent sur ce texte. Ils peuvent revenir librement sur ce qui a été voté par l'Assemblée nationale.
Ce qui se dit, je te coupe juste, ce qui se dit souvent, c'est que la première écriture de cette proposition de loi ou de ce projet de loi est souvent assez globale. On ne rentre pas vraiment dans le détail. Par contre, le Sénat s'applique souvent à réécrire plus justement au regard de la Constitution, c'est ça ?
Au regard de la Constitution.
Il y a un côté finalisation un petit peu de la loi. En tout cas, adéquation avec la Constitution.
Oui, mais ils ne regardent pas que ça, en fait. Si tu veux, quand le projet de loi est présenté au Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, en général, il est quand même assez bien ficelé juridiquement, donc il n'y a pas de problème, il ne manque pas d'articles. Mais il se peut qu'il y ait des articles qui posent problème. Et donc l'Assemblée et le Sénat regardent, non seulement au regard de la Constitution, mais rarement, plutôt au regard des conséquences que pourrait avoir le vote de ces articles et amende vers ce qui leur semble plus juste ou plus équitable ou tout simplement qui est plus en adéquation avec les besoins des gens. Voilà.
Donc, d'accord. Des besoins des gens, ça c'est l'Assemblée nationale, et les besoins des élus et des responsables sur les territoires, on est plus sur le Sénat.
Oui, alors le Sénat examine tous les projets de loi. Comme l'Assemblée nationale, il n'y a pas de voilà, c'est simplement que l'Assemblée nationale voit la loi en premier et peut voir la loi en dernier. Mais le Sénat examine exactement les mêmes projets de loi ou propositions de loi que l'Assemblée nationale. Enfin, bien que là il y ait une petite astuce technique, mais on va résumer les choses. Donc, en revanche, pour ce qui est des projets de loi qui porteraient sur les collectivités locales. Ce qu'on appelle la navette législative est inversé, c'est-à-dire que la première assemblée qui se prononce sur le projet de loi, c'est le Sénat. On l'a vu récemment sur le projet de fusion des régions qui a été examiné en premier par le Sénat, alors que toutes les autres lois sont examinées en premier lieu par l'Assemblée nationale.
D'accord. On a aussi des propositions, donc, comme tu disais tout à l'heure, qui émanent directement des sénateurs. Qui sont sur le territoire. On peut parler de celle d'Alain Bertrand sur l'hyper-ruralité, c'est ça ? On peut parler peut-être de celle sur la loi sur le...
On peut parler de la loi soit sur la représentation dans les conseils régionaux qu'a déposé Alain Bertrand en 2013, soit sur la proposition de loi pour la gestion du loup, qui a également été déposée en 2013. Donc ça, c'est une initiative du sénateur de la Lozère qui peut, avec l'appui de son groupe, mettre à l'ordre du jour du Sénat la proposition de loi. Une fois que ces deux lois ont donc été votées par le Sénat, elles ont le président du Sénat a demandé à son homologue de l'Assemblée nationale d'inscrire ces deux propositions à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais là, c'est pas automatique. Il faut que les députés s'en saisissent. Donc, dans les deux cas, on est dans l'attente de la saisine du projet de loi par l'Assemblée nationale.
C'est vrai, ils décident de l'ordre du jour, en gros, c'est ça ? Ils peuvent ne pas mettre à l'ordre du jour la fameuse loi.
Chaque assemblée est libre de son ordre du jour, sauf sur des créneaux spécifiques qui sont mises. Le téléphone qui sonne, je voudrais dire. Qui sont à l'initiative du gouvernement. Le gouvernement peut imposer un ordre du jour aux assemblées. Voilà. Mais de façon générale, c'est le bureau de l'Assemblée, du Sénat ou de l'Assemblée nationale qui décide de l'ordre du jour de son institution.
Quand même, d'où l'importance quand même de ce bureau, effectivement. On ne mesure pas que c'est eux qui décident, les lois qui décident de discuter.
Ils décident de l'ordre.
De l'ordre.
Par exemple, les projets de loi, ils arriveront de toute façon.
Voilà.
Et le gouvernement peut de toute façon imposer un projet de loi à l'ordre du jour. Donc, il dispose de l'ordre du jour, mais pas.
L'ordre, c'est important quand même.
Pas entièrement.
C'est pas aussi le Sénat qui décide des ordonnances ?
Non.
Comment ça se passe par rapport au gouvernement ? Quand le gouvernement décide de
légiférer. La discussion là-dessus, c'est que si le gouvernement décide de légiférer par ordonnance, par définition, ça ne passe pas devant l'Assemblée ni le Sénat, devant le Parlement. Donc c'est là qu'est la polémique, c'est-à-dire que le Sénat et le Parlement en général représentent la nation française, les citoyens français ou les collectivités locales françaises. Donc c'est un peu difficile d'expliquer, comprendre des mesures sans en référer au peuple français, finalement. Voilà.
D'accord. Donc, un rôle intéressant, finalement très important, parce qu'il y a tout entre ces deux assemblées, un travail consécutif et concomitant. Et puis, il y a la question de congrès, qui est
la réunion de ces deux assemblées en
congrès qui ne se fait pas automatiquement.
Alors
et qui n'est pas annuel.
Non, pas du tout. C'est le gouvernement qui convoque.
D'accord. C'est le président, en fait, qui convoque, c'est ça ?
Le gouvernement. Ouais. Qui convoque un congrès. Et donc, par exemple, pour modifier la Constitution, il faut en passer par la réunion du congrès et s'assurer d'avoir une majorité des 3/5, donc ce qui est assez important.
De la totalité des deux assemblées, c'est ça ?
Non, un vote aux 3/5 du congrès, donc pour certaines modifications. Donc c'est là que l'exercice est parfois difficile, parce que même on parle du Sénat plus spécifiquement, jusqu'à dimanche dernier, le Sénat a été de majorité de gauche, mais ce qui ne veut pas dire qu'il était majoritairement socialiste.
Et favorable au gouvernement.
Voilà. Et donc, sur certaines questions, il y a toujours des discussions, par exemple, entre les écologistes, les socialistes, les radicaux. Ils ne sont pas toujours... Donc, la majorité au Congrès était très difficile à atteindre, d'où la réunion exceptionnelle du Congrès.
À vous écouter, et forcément, vous nous expliquez tout l'importance du Sénat et puis les jeux. On voit quand même de la démocratie, puisque c'est beaucoup de discussions. Comment est-ce que, du coup, ce week-end, et pourquoi est-ce qu'on a pu entendre qu'il fallait supprimer le Sénat ? Comment est-ce que, quand on est dedans, qu'on a la tête dans le guidon tous les jours, qu'on est très proche des sénateurs, on peut entendre et comprendre que les médias et, d'une manière générale...
Je pense que c'est une facilité, en fait. C'est ce qu'on rappelait tout à l'heure sur l'histoire et le pourquoi de l'existence de cette Assemblée. A été oublié, et il est très facile de dire supprimons le Sénat.
Pourtant, il y a eu des tentatives quand même du général de Gaulle et
tout à fait.
Enfin, un sentiment
qui a échoué.
qui a échoué, tout à fait. Et puis, rappeler aussi peut-être que c'était aussi dans les 100 propositions de François Mitterrand qui avait aussi émis l'hypothèse de supprimer le Sénat.
Oui. Après, il y a des régimes démocratiques en France qui fonctionnent avec une seule assemblée, mais la majorité ont deux assemblées, c'est un garde-fou. Alors en ce moment, effectivement, on est dans une période où on tape facilement sur les parlementaires. Après, il faut pas oublier que c'est quand même la base, le Parlement, la Constitution, c'est quand même la base de notre République et de notre démocratie. Ouais. Donc il est important, justement, ce qu'on fait aujourd'hui, de dire à quoi ça sert. Expliquer que non, alors les sénateurs ont une réputation assez triste de faire la sieste dans l'hémicycle. Je peux vous assurer que derrière, tout ce qu'on voit pas, c'est le travail en commission.
Bah, c'est si les parlementaires peuvent faire la sieste, les attachés parlementaires bossent.
Alors,
au moins eux,
je m'en sortirai au moins.
La deuxième partie de cet entretien avec toi, Aurélie, ce serait de parler un petit peu de ton travail. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un attaché parlementaire? Quel statut il a?
Alors déjà, au Sénat, vous avez deux types de salariés du Sénat. Vous avez...
On s'excuse, Nico a beaucoup d'amis, et des fois les amis appellent pendant les émissions.
Vous pouvez rappeler plus tard, merci. Donc au Sénat, il y a deux types de salariés. Il y a d'un côté les fonctionnaires du Sénat, qui sont ce qu'on appelle des catégories A. Donc c'est des personnes qui ont passé des concours souvent très élevés et qui sont fonctionnaires, qui sont chargés du bon fonctionnement de l'institution, de la procédure législative. Voilà. Puis à côté de ça, vous avez tous les fonctionnaires qui sont en charge du fonctionnement du Palais du Luxembourg. Et vous avez les attachés parlementaires, dont je fais partie, qui eux ne sont pas des fonctionnaires. Nous avons un contrat de travail de droit privé qui nous lie à notre parlementaire, que ce soit attaché, sénateur ou député, c'est à peu près le même contrat.
C'est un CDD,
à quelque chose
en fait,
près. C'est un CDD de droit privé qui est de la durée en fait du mandat du parlementaire.
C'est quand même un CDD particulier qui n'existe pas dans le code du travail. Enfin, c'est un aménagement du code du travail puisque les CDD de 6 ans ça n'existe pas en l'occurrence.
Vous l'avez dit.
C'est encore
une
exception.
C'est pas un CDD de 6 ans. C'est un contrat de droit privé à durée...
Indéterminé, mais pendant 6 ans.
Indéterminé, qui dure le temps du mandat. Donc, c'est-à-dire que si le parlementaire...
veut changer entre-temps, il peut, mais bon...
Ah, c'est voilà. Surtout si lui, il change.
Si lui change, c'est-à-dire s'il perd une élection ou s'il décède, ben, notre contrat prend fin le jour de l'événement. Tout
d'accord.
À fait. Donc voilà, donc nous ne sommes pas du tout fonctionnaires. Le profil type de l'attaché parlementaire, c'est plutôt un juriste, bac plus 3, bac plus 5.
Quelle formation il faut avoir?
Il n'y a pas de formation exigée pour la signature du contrat, mais dans ce qu'on voit, c'est que la majorité des attachés parlementaires ont bac plus 5, Sciences Po, droit. Sciences économiques et sociales en majorité. Après, il y a des exceptions, hein, des gens qui... Il faut de toute façon avoir le bac, mais c'est la seule exigence. Après, le travail quotidien demande un certain niveau de technicité sur le...
De compétences techniques.
Ouais. Voilà, de compétences techniques sur la procédure législative.
Et de connaissances aussi.
La connaissance des institutions. Donc oui, en général, bac plus 3, bac plus 5, plutôt juriste.
Et Aurélie, comment est-ce que on explique que la quasi-totalité, ou peut-être je me trompe, hein, mais des attachés parlementaires sont jeunes?
Ben, peut-être par la précarité.
La précarité, effectivement.
Peut-être par la précarité des contrats qui fait que finalement, tous les 6 ans, ou tous les 5 ans pour les attachés parlementaires de députés, notre situation est remise en cause de façon naturelle du fait de la vie politique française. Donc peut-être qu'au bout d'un certain moment, certains d'entre nous préfèrent passer des concours, devenir fonctionnaire dans une collectivité locale.
Mais c'est quand même, j'imagine, des merveilleux tremplins professionnels quand même, puisque vous avez là un travail de réseau.
Justement, j'allais y venir, si je peux me permettre, puisque notre maire à Marvejols, Jean-François de Loustal, était attaché parlementaire.
Oui, tout à fait.
Et est devenu maire de Marvejols. Donc est-ce qu'on est en train de parler avec la future maire de Mende?
Je n'en ai aucune idée.
Je pensais revenir avec un scoop. Voilà, 48 FM.
Pour l'instant, le maire de Mende n'a pas l'intention de quitter son poste, donc la question ne se pose pas.
Non, je plaisantais, mais est-ce que justement la carrière politique
Pour aller dans le la carrière des attachés parlementaires. Certains se retournent vers la fonction publique pour plus de sécurité dans l'emploi, surtout quand on a des enfants, etc. D'autres, effectivement, s'orientent vers une carrière politique parce que ça fait quand même la politique au sens militant du terme fait partie de notre quotidien. Donc, effectivement, on peut y trouver un intérêt, effectivement.
Il faut aimer ça quand même, non ? Il faut aimer dire quoi ? L'univers politique. Il faut aimer ça. Il faut aimer
de toute façon. De quoi tu veux de toute parler façon. Une chose est sûre, c'est qu'il faut s'intéresser à la chose publique. Les gens qui sont attachés parlementaires, souvent, sont très engagés.
Ils sont des militants avant.
Peut-être, oui.
Militants politiques.
Pas tous. Mais ils sont engagés dans la chose publique, ils font partie d'associations, ils font partie d'un parti politique.
Ou d'un syndicat.
Ouais. Voilà, c'est des gens qui sont passionnés par la chose publique, forcément. Sinon, on travaillerait dans le privé, et, vu la nature, comme on l'a souligné, de nos contrats.
Et de la précarité, oui.
Voilà, c'est pas le contrat de travail qui fait qu'on est attaché parlementaire, c'est l'intérêt de l'État, de la nation, ouais. De l'organisation, de la France, des débats. Parce qu'il y a des débats au Sénat, malheureusement, je regrette qu'ils passent moins souvent à la télé que ceux de l'Assemblée nationale, mais qui sont très intéressants.
Alors, il y a une chaîne, hein, en parlant de médiatisation,
il y a une chaîne qui s'appelle Public Sénat.
Voilà, Public Sénat, qui est aussi celle de l'Assemblée, puisque c'est
celle de l'Assemblée, c'est LCP.
Voilà, mais c'est le même, ce sont les mêmes studios, je crois, qui sont partagés sur les deux.
Pas du tout, Nicolas, mais c'est pas grave.
Les
locaux de Public Sénat sont à côté du Sénat et les
locaux de LCP à côté de l'Assemblée. Pour moi, c'était la même.
C'est pas la même équipe, non.
Bon, ils ont fait leur gros plein ce week-end en termes de fréquentation.
Je suis pas sûr que toute l'année
on regarde beaucoup.
Ah oui, c'est ça. Donc
c'est ça, c'est regrettable. Mais à part moi, je pense que déjà, Amande, nous sommes peu à regarder Public Sénat régulièrement.
Je trouve que c'est une chaîne très intéressante.
Bien sûr, Nico.
Il n'y a pas que des reportages.
Il y a des reportages sur les collectivités territoriales qui sont intéressants, effectivement.
Il y en avait un dernièrement, justement, en aparté. C'était sur Carcassonne. Et la gestion, le passage de la commune à la communauté de communes et les transferts de compétences et de personnel qui montraient des fois justement des échelons qui n'ont pas été bien respectés et des transferts qui se sont mal faits, qui fait qu'on a multiplié en fait le personnel au lieu de le réduire. Quoi. Voilà. Mais,
il y a souvent des reportages de fond la plupart du temps qui sont sur les collectivités locales ou l'application de certains projets de loi et qui sont très intéressants et qui permettent...
Et le soir, il y a même des débats avec...
À 22h.
À 22h, c'est très, très
intéressant. Donc, ils ont fait la sieste l'après-midi. S'ils sont encore à 22h, c'est pas possible.
Non, c'est un mythe qu'ils font la sieste, en fait.
Je tiens à
le préciser.
Je crois que malheureusement, dans notre société, c'est très facile de critiquer, de ne pas faire l'effort de s'intéresser à ce que font les gens. Mais c'est pas vrai que dans la politique. C'est très vrai dans la politique parce que c'est facile, parce qu'on tape sur les élus, parce qu'on a besoin de ça. C'est un échappatoire, c'est un exutoire. Mais je pense qu'on ne fait pas assez de travail pédagogique autour de ça et que les gens ne se responsabilisent pas assez. C'est-à-dire que souvent, on entend ce discours-là sur « ils font rien, ça ne sert à rien, ils nous coûtent des sous, ils ont une vie extravagante, etc. » Mais dans le fond, on ne cherche pas à comprendre et les médias ne nous aident pas beaucoup non plus, il faut le dire, sur la pédagogie de à quoi servent toutes ces chambres et comment fonctionne véritablement la Constitution. Moi, il me semble qu'on a tous notre responsabilité à essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. On le fait dans le cadre de notre travail, mais dans notre vie personnelle et humaine, je dirais, d'engagement, en tant que citoyen, on a un peu abandonné aux médias le rôle de cette information. Mais je pense qu'elle est nécessaire que chacun de nos concitoyens se réapproprie l'information.
Eh bien, ne serait-ce que pour avoir un regard critique.
Je voulais juste préciser que d'ailleurs, pour bien comprendre comment fonctionne le Sénat, il arrive à des Lozériens qui sont de passage à Paris de nous contacter pour visiter l'institution. On leur permet d'assister à une séance publique. Tout à fait. Donc si vous montez sur Paris et que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, vous me passez un petit coup de fil à la permanence et on vous accueillera avec plaisir justement pour montrer à tous les Lausériens comment fonctionnent ces assemblées, parce que
on mettra elles sont le quand même là pour sur notre
sont des lieux publics, c'est vrai qu'on oublie.
Oui, c'est ça. Elles sont quand même là pour les représenter. Elles votent la majorité des mesures qui s'appliquent à eux au quotidien. Donc c'est important de comprendre et ça sert à quelque chose. Ça sert à l'exercice de la démocratie.
Vous avez accueilli des.
On accueille souvent des classes.
Ouais,
donc on
des
est
étudiants
on est
sollicité ou des
souvent
enfants,
par des classes. Ouais. Entre
plutôt lycée quoi
plutôt lycée mais ouais. Il arrive à des instituteurs de visiter le Sénat. Bon, c'est pas on s'adapte au niveau des élèves, c'est pas les mêmes informations qu'on leur donne, mais en général ça les intéresse.
Donc ça fait aussi partie du job de l'attaché parlementaire.
Tout à fait. Donc j'ai un collègue qui est sur Paris, qui lui a son bureau, moi j'ai mon bureau à Mende et lui a son bureau dans les locaux du Sénat. Et qui peut accueillir ces personnes.
D'accord. Donc vous êtes deux à suivre.
On est un et demi.
Un et demi.
Voilà.
D'accord.
Parce que Maxence, non pas tout à fait. Maxence, mon homologue à Paris, est à mi-temps et il travaille pour son autre moitié pour
un autre attaché parlementaire.
Pour un autre sénateur, voilà.
D'accord. On peut se partager des
qui
attachés.
Qui était Christian Bourquin et qui maintenant est Hermeline Malherbe, la présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales. Donc on est très régional chez nous, en fait.
Et on imagine, tout à l'heure, on a parlé de la dimension juridique et donc technique de l'attaché parlementaire, effectivement, pour, on imagine, aider à la rédaction
des amendements, des propositions de loi. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a aussi une face cachée, mais qui n'est pas... qui est tout aussi honorable, hein, mais qui est ce travail de réseau avec les élus, parce que une loi, si
oui,
on veut qu'elle passe, il faut avoir des appuis. Et est-ce que c'est aussi l'attaché parlementaire qui travaille, ou est-ce que là pour le coup c'est le parlementaire qui est plutôt affaire?
Il y a deux, j'allais dire, il y a deux questions. Il y a d'abord la question du réseau, des contacts plutôt sur le terrain, c'est-à-dire que pour nous qui représentons, pas moi, mais le sénateur, les collectivités locales, c'est important de connaître les maires, les conseillers municipaux, les conseillers généraux, pour justement qu'ils nous fassent part de leurs préoccupations et pouvoir adapter justement la loi à leurs difficultés au quotidien, au terrain, voilà. On peut aussi le faire à travers des rapports qui sont confiés par le gouvernement aux parlementaires. Donc dernièrement, le sénateur a remis un rapport au Premier ministre sur l'hyper-ruralité. Ça venait d'une commande du gouvernement qui s'intéressait aux questions de ruralité. Donc c'est important d'avoir ce réseau localement pour faire remonter justement les préoccupations du terrain. Et ensuite, nationalement, c'est un palais, le Sénat. Donc, en fait, on croise forcément les sénateurs des autres départements. Par exemple, Christian Bourquin avait donc un collaborateur partagé avec nous, mais il avait le bureau à côté. Mais c'est important parce qu'on pouvait aussi lui parler de préoccupations, pour le coup, plus régionales, mais d'attirer son attention là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on a aussi... un boulot à faire sur le réseau, mais toujours pour défendre les intérêts de la Lozère.
Alors, si on devait traiter ça sous la forme d'une journée type, qu'est-ce que ce serait ta journée type
quand mon réveil sonne, je regarde mon téléphone portable pour voir si dans la nuit, rien de grave n'est arrivé. Et ensuite, acte 2, je lis le midi libre. Bon, sauf le vendredi, je lis le midi libre, puis la Lozère nouvelle. Mais c'est avant de déjeuner.
Donc ça, c'est tous les jours.
C'est tous les jours.
Et tu écoutes 48 FM, bien sûr.
Alors, je continue, après je déjeune.
C'est ça.
Après, je vais dans ma voiture, j'écoute 48 FM. Voilà. Puis ensuite, au cours de la journée, en fait, c'est assez varié, il n'y a pas de journée type. On peut avoir des sollicitations qui viennent du palais directement pour la signature, la co-signature de propositions de loi, donc d'autres sénateurs qui nous demandent de participer à leur projet de loi. On peut avoir des amendements qui sont co-signés par plusieurs sénateurs, ou nous-mêmes être en train d'examiner une loi et avoir des amendements à déposer dessus parce que pour peaufiner un peu les choses. On peut ensuite, avec le sénateur, on se rend régulièrement sur le terrain, donc ma journée peut aussi commencer par un déplacement à Saint-Symphorien, les Vignes, Bagnoles, enfin voilà, à travers la Lozère. On est souvent amené également à rencontrer des collaborateurs ou des ministres pour des dossiers lausériens comme la CCSS. Les collaborateurs ne travaillent pas en commission.
Ce sont les élus, les sénateurs
qui siègent dans les commissions de travail. Donc les commissions de travail, pour que tout le monde comprenne bien, C'est donc il y en a 7 au Sénat. Développement économique, affaires européennes, voilà, selon le sujet que traite la loi. Et toutes les lois sont examinées en commission par les sénateurs. Ça peut prendre 2-3 semaines avant que la loi ait terminé, qu'il ait terminé l'instruction de la loi en commission. Et ensuite, elle passe en séance, ce qu'on voit à la télé. Mais le gros travail, effectivement, c'est en commission. Et là, les attachés parlementaires n'y vont pas. C'est vraiment le travail des sénateurs.
D'accord. Mais ils préparent le travail ou les interventions du sénateur.
Oui, on débroussaille en général. Ouais, c'est ça.
Apporter des éléments, faire toute une compilation d'informations sur la
thématique. Attirer l'attention du sénateur sur un point.
Ou la problématique. Ouais,
voilà. Souvent, les...
Donc, il y a un gros travail de lecture, d'information personnelle, déjà, sur...
Oui. Ouais. Bah déjà, il y a un gros travail d'actualisation de ses connaissances, parce que la loi, c'est quelque chose qui change en permanence, et donc il faut être au courant de ce qui se trame aussi.
Et vous travaillez en lien avec d'autres, parce que ça semble énorme, le travail. Donc, vous pouvez mettre en veille, surtout.
Non, alors...
Ta journée, quand même. Hein.
On en est à peu près. Là. Ouais. Ça dépend, parce que quand elle va loin...
T'es dans la voiture, donc, d'accord. Après...
Elle écoute toujours 48 FM.
J'écoute 48 FM toute la journée. Et quelle était la question?
Quand mes questions gonflent,
si
Nico,
tu travailles avec d'autres intérêts.
Oui, alors c'est ça, on a quand même une technique, c'est-à-dire que les services du groupe, les groupes auxquels appartiennent les sénateurs, ont eux-mêmes une équipe qui dépend en fait de la taille du groupe. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y aura plus de collaborateurs UMP que de collaborateurs pour le groupe RDSE auquel appartient le sénateur Bertrand, qui, eux, c'est des extra-juristes, c'est-à-dire qu'ils sont très très forts, et ils ont des domaines de compétences particuliers. Et on peut les solliciter à toute heure de la journée pour une question vraiment très technique.
Vous aussi,
technique.
Tu peux les solliciter
Et non. Non. Seulement nous, les sénateurs.
C'est plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie.
Pour eux, c'est une bonne nouvelle.
Pour eux, c'est mieux, voilà. Et donc, ça, c'est un appui technique important, parce qu'effectivement, si on devait faire toutes les recherches juridiques, on finirait jamais la journée.
Il faudrait être juriste aussi.
Mais vous êtes un peu plus sur le fond, vous, et eux, sur la forme, par rapport, quand même, si on...
Ah non, eux
peu.
Sont très très sur le fond. Eux, c'est...
Bah oui, quand je dis le fond, c'est la quand je dis la forme, c'est la dimension juridique, l'écriture des lois. Et le fond,
eux,
plutôt
ils sont vraiment
le
sur
dossier.
L'écriture des lois. Très, très nous, on est plus sur le dossier d'actualité, on va c'est dire, ça. Sur ouais, sur le
l'intérêt politique,
la procédure de la loi, l'intérêt politique, ouais. Mm-mm.
D'accord, donc. Ta journée se termine comment, Aurélie?
En général,
il veut savoir comment tu vas te coucher, je crois.
À quelle heure? Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se rend pas compte que ce travail qui est quand même précaire, certes, a normalement rémunéré, assez bien rémunéré, puisque la grille est quand même intéressante. Malgré tout, il y a quand même cette précarité et cette dimension de travail très très importante de toute une journée, plus les week-ends, plus les déplacements.
Oui, voilà. Après, le temps au bureau est important, mais finalement, il n'y a pas que ça. Parce qu'une fois qu'on a regardé tous les projets de loi, tous les amendements, parce que c'est une liasse d'amendements, il peut y avoir entre 50 et 100 feuilles. Donc il faut lire 50 ou 100 amendements, vérifier. Alors c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude... on ne se rend pas bien compte de ce que ça représente, mais c'est une phrase qui, en gros, dit « Nous supprimons l'article premier du Code de la Sécurité sociale ». Donc il faut aller chercher le Code de la Sécurité sociale, voir ce que ça produit si on supprime l'article premier. Donc il y a quand même un peu de... Ça paraît rien, mais il y a un peu de travail derrière. Et puis après, on est sollicité par les communes sur des par exemple, des aides pour monter des dossiers pour des subventions. On est sollicité par des associations... On a beaucoup de rendez-vous individuels, des gens qui ont...
Chaque sénateur a une enveloppe, c'est ça hein. C'est d'ailleurs, au Sénat, ça a été modifié un petit peu.
Sur la réserve parlementaire?
Oui, sur la réserve parlementaire.
Tout à fait. Donc avant...
C'est 130 000 euros maintenant, c'est ça?
Ça dépend du budget de l'État chaque D'accord. année, mais oui, c'est entre 120 c'est voté, ouais. et 130 000 euros. Alors avant, il y avait une enveloppe globale qui était votée, et puis la répartition se faisait un peu... selon les affinités, on va dire. Et aujourd'hui...
Aujourd'hui, ça, ça a été...
Voilà, c'est une enveloppe qui est votée par groupe, et le groupe divise la somme D'accord. par le nombre de sénateurs, donc c'est à peu près, et de députés, puisque les députés ont une réserve parlementaire également. C'est à peu près une somme autour de 830 000 euros, mais c'est rien.
C'est rien, si on le divise par 186 communes, ça fait 10 000,
oui,
un peu
plus
moins
les,
de 10 000
les
euros,
associations qui
plus
peuvent
les
aussi...
Plus les associations, donc c'est vrai que c'est pas... C'est une façon d'aider localement, ou ça sert à quoi, en fait, cette réserve?
Oui, c'est ça. En fait,
pour aider un projet à démarrer, pour aider une commune.
Il y a souvent, surtout en Lozère, les projets des collectivités rentrent pas toujours dans les cases. C'est-à-dire que souvent, elles ont un projet qui est important pour la commune, mais qui malheureusement ne pourra pas être aidé par la région, le conseil général, ou pas suffisamment parce que la commune n'a pas un budget conséquent. Ouais. Mais pourtant, elle a
un TBI,
besoin de faire
un TBI, un tableau numérique dans une petite école,
exactement.
Par exemple.
Oui,
ça peut. Des choses comme ça.
Voilà, c'est forcément pour les collectivités de l'investissement. Donc, le sénateur, avec son enveloppe, vient en appui, mais c'est pas, ça peut pas être le... La somme est pas suffisamment importante pour que ce
D'accord.
soit
c'est un
le seul...
C'est un appui.
C'est une aide, en
ça,
fait,
ça,
à la réalisation
aide.
Des D'accord. projets. Voilà.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Aurélie
merci.
Mayol.
Avec et plaisir.
Pour toutes ces informations. On vous conseille quand même, il y a un wiki spécial sur le Sénat. C'est facile à lire.
Oui, le site du Sénat qui est très bien fait aussi.
Le site du Sénat qui est super bien fait.
La chaîne parlementaire.
Oui.
Canal 13.
On vous conseille d'écouter ça, même si ça peut vous paraître un peu rébarbatif par moment. Mm-hmm. C'est quand même ce qui fera votre demain, votre lendemain, et puis le fonctionnement de notre société au quotidien. En tout cas, merci.
Merci
Aurélie.
À vous.
On peut te contacter, te joindre pour de jeunes étudiants, par exemple, qui seraient intéressés pour faire une formation. Tu leur donnes des conseils ou des choses comme ça?
Ah oui, moi je conseille tout le monde. Voilà. Ils peuvent me joindre à la permanence parlementaire,
voilà.
Amende.
Voilà.
C'est facile à trouver.
À quel numéro?
Au 04 66 65 16 48.
Eh bien, merci beaucoup, Aurélie.
Avec plaisir.
On va faire une petite coupure musicale tout de suite, et puis on reprend la suite de notre émission avec la saison culturelle du Théâtre de la Mauvaise Tête. À tout de suite.
Every second and a minute of each hour, I need to see your of my everything. No matter what will be, with you and me, you always have my soul, my heart, my love, my everything.
Et voilà, de retour donc dans nos studios sur le mag, un spécial qui était consacré donc au Sénat avec Aurélie Mieux. Et puis tout de suite donc la deuxième partie sur la programmation et la saison du Théâtre de la Mauvaise Tête. Alors bonjour Thierry Arnal.
Bonjour.
C'est la combientième de saison?
Oh, alors là, c'est la question piège, voilà.
On aime bien les
alors,
piège.
On me prévient pas, on me dit viens, c'est sympa, tout ça, et voilà, et on attaque comme ça. Non, je sais pas. Moi, j'ai repris en 91, donc voilà, ça fait déjà quelques années. Alors le travail a évolué depuis, mais voilà, on est à peu près, j'aurais dit, voilà, 22 saisons, je pense, 22-23. Ouais. Ouais, ouais.
D'accord. Donc là, un démarrage de saison qui sera le 3 octobre. À 18h30, c'est ça ?
Oui, 18h30, on accueillera les gens à la salle polyvalente avec une petite présentation, quelques petits discours. On va évoquer donc cette saison par quelques petits spectacles. On présentera aussi deux auteurs qui seront présents là, qui seront en résidence pendant toute l'année à Marvejols. On pourra les présenter au public. Les
c'est Borja González, c'est ça ?
Pardon ?
Borja González.
Non, ça c'est le spectacle qui aura lieu à 20h30. Mais les auteurs, non, c'est Sandrine Knud et Jean-Christophe Bellevaux, voilà, qui seront en résidence. Donc les gens pourront les rencontrer, voir leurs livres et discuter un petit peu avec eux, puisqu'on aura besoin de les faire rencontrer un petit peu à la population, aux associations. Donc voilà, ça sera un bon moment pour ça.
Alors tu as choisi un premier spectacle, Rêverie, Rêve de sable.
Rêve de sable, oui, c'est une compagnie catalane. J'avais découvert le spectacle à côté de Barcelone. Et puis, voilà, c'est un spectacle qui m'a touché parce que c'est un artiste très généreux sur le plateau.
C'est
un
illustrateur, en fait, à la base.
Voilà, c'est ça. Il est circassien aussi, marionnettiste. Et là, il a travaillé donc avec une palette de sable, c'est-à-dire c'est du sable normal. Il est sur une table en verre et il réalise pendant le spectacle je ne sais combien de dessins avec une virtuosité et une rapidité impressionnante.
Il y a un grand écran. En voilà. Fait, ce qu'il fait sur sa table, comme une table à dessin, avec un éclairage en dessous,
tout à fait,
est filmé.
Donc voilà, et
voit,
filmé en
on
direct.
Voit sa main, en fait,
ouais. Hein,
et on voit en grand format, donc un genre format 4 ou 6 mètres de base sur 4 mètres de haut. On voit en fait ce qui est en train de dessiner.
De dessiner en direct, voilà. Voilà, voilà. Les caméras reprennent la table lumineuse et les dessins apparaissent sur l'écran. Et je disais, voilà, il réalise ses dessins en plus avec une virtuosité, une grande rapidité, ce qui est assez impressionnant.
Oui, ouais. Donc c'est rêve de ça parce qu'en fait, il dessine sur ce sable. Qui saupoudre,
voilà, tout simple, il n'a aucun objet, hein, c'est simplement avec ses doigts, donc il dépose le sable sur cette table et ensuite il dessine avec ses doigts. Alors ça peut être.
Ça nous amène à des rêves.
Voilà, c'est en fait, il nous raconte son histoire, un peu son parcours artistique. Et il y a un musicien aussi sur le plateau. Voilà, il y a une connexion entre les dessins, la musique et ce que nous raconte l'artiste. C'était un spectacle que je voulais pour une ouverture, voilà, conviviale, qui est léger parce que c'est voilà, on rentre dans l'histoire, ouais. Qui s'adresse à tout le monde, aux enfants, aux adultes. À partir de 6 ans, mais voilà, même à 3 ans, 4 ans, ouais, il y a aucun problème. Pour suivre le spectacle.
D'accord.
Donc ça sera à 20h30, après l'apéritif dînatoire qui est organisé, j'ai demandé à l'association Tranouga, qui est une jeune association qui vient de s'installer sur Marvejols, de nous faire une petite surprise à l'espace des jeunes. Voilà, ils vont nous concocter un espace à eux et mettre un petit peu de musique et nous servir à boire et à grignoter. Voilà.
C'est bien pour une entrée en matière.
Bah ouais.
Suivi de très près par un mois d'octobre quand même qui va être... sous un label un peu particulier, Ardessence.
Voilà, donc pour la deuxième année en ce qui nous concerne, on s'est associé avec la Fédération des œuvres laïques et les scènes croisées pour co-organiser cet événement qui est un festival régional Ardessence en proposant plusieurs spectacles, donc le mardi et le jeudi, avec la compagnie Alza Bouledoire qui nous proposera son spectacle de danse, suivi du spectacle Same Same, des expositions aussi, et le jeudi une présentation des courts-métrages, discrimétrages et le spectacle Trisunique.
D'accord, donc trois partenaires autour d'un axe fort qui est un autre regard, c'est ça ?
C'est ça, sur le handicap ou un peu plus large, sur la différence, sur nos différences, comment on les vit, comment on les accepte, comment on les montre. Voilà, donc tous les spectacles sont vraiment de forme et d'émotions différentes et qui nous amènent à chaque fois, avec un petit décalage, à se poser certaines questions, effectivement.
En parallèle à ça, il y aura aussi une exposition ?
Oui. Alors, il y en a une à Mende qui aura lieu. Alors, j'ai plus les dates en tête, mais on doit la voir pas loin. À la Bibliothèque Lamartine, voilà.
Le 15 au 18 octobre.
Voilà, tout à fait. Et aussi à la salle polyvalente, la compagnie Belle de Fou qui propose le spectacle Trisunique. Nous proposerons une petite exposition avec l'association Les Herbes Joyeuses autour de portraits réalisés par cette association, et notamment donc par des personnes qui sont d'handicap mental.
On peut retrouver toutes ces informations sur le site de la Ligue de l'Enseignement, www.fol48.org.
Tout à fait.
Sur le site aussi du TMT.
Voilà, et j'imagine aussi sur celui des scènes croisées. J'imagine aussi.
Donc le TMT www.lamauvaisetête.com, et on vous redonnera l'information tout à l'heure, saison 2014-2015.
Voilà. Et juste, c'est greffé, et je trouve que c'est aussi très intéressant sur ce projet, la ville de Marvejols qui organise un regard porté sur François Tosquelles pour célébrer les 20 ans de son décès, enfin célébré d'une certaine façon, avec des expos, des colloques, des films, des lectures, des tables rondes, un hommage. Voilà. Donc c'est du 13
au 26 octobre.
Voilà, à Marvejols, à salle polyvalente, à salle du TMT.
Ardessence, c'est essentiellement sur Marvejols, puisque le projet est né un petit peu là-bas depuis quelques années. Pourquoi s'inscrire dans une démarche comme ça, un peu ciblée, parce que c'est pas trop votre cas sur le reste de la saison ?
Non, pas du tout. C'était l'idée justement de mélanger les publics et les genres. C'est-à-dire, vous étiez venu à Marvejols il y a 3 ans avec Ardessence, et c'est vrai, on en avait parlé ensuite, que peut-être le public n'avait pas vu un peu la portée de ces spectacles-là, et c'était un peu réservé peut-être aux institutions, au centre. On avait dit justement de l'ouvrir, donc du coup de le rentrer dans une programmation théâtrale et de permettre justement aux différents publics de se croiser et de se mélanger, et justement de parler de cette différence qui parfois est très très petite.
Le mois de novembre nous proposera donc au TMT Un obus dans le cœur, le 7 novembre,
tout
Risque,
à fait.
Jeudi 20 novembre, et Évaporé, vendredi 28 novembre.
Voilà, avec ces trois spectacles, on fait un petit peu un parcours sur la saison, puisqu'on a une compagnie régionale avec Nos buts dans le corps, sur un texte de Wajdi Mouawad. Risque, c'est programmé en partenariat avec les scènes croisées, c'est une compagnie qui vient du Nord, qui va nous parler de l'adolescence. Et autour de ce spectacle, on a proposé à la fois un stage de théâtre pour les gens, et aussi une discussion, puisque ce spectacle a été labellisé dans le cadre de la Belle Saison. Nicolas, d'accord. Je crois que tu en as déjà parlé un petit peu sur les antennes, voilà, de Belle Saison. Et puis Évaporé, c'est une compagnie qui a été en résidence chez nous la saison dernière et qui viendra travailler les 10 derniers jours de ce spectacle avant de nous proposer la première à Marvejols, une association entre Luc Sabot, metteur en scène, et Sébastien Joignès, auteur, et les deux seront présents au plateau.
D'accord, donc tu parlais tout à l'heure justement de résidence. Qu'est-ce que c'est finalement une résidence ? À quoi ça sert ? Pourquoi vous faites ça ?
Alors depuis 2-3 ans, on propose aux compagnies ou aux auteurs de venir en résidence à Marvejols. Ça peut être sur des durées plus ou moins longues. Ça peut aller d'une semaine à 15 jours, à un mois, voire 2 mois. Pour moi, je considérais de proposer une saison sur le territoire de Marvejols me semblait pas suffisant. J'avais envie de nourrir cette programmation dans un sens comme dans l'autre, avec des résidences, avec des temps plus importants accordés aux artistes, et que ces artistes, du coup, puissent rencontrer la population, ou alors des élèves, ou aller en maison de retraite, par exemple.
Donc, le fait d'avoir des artistes comme ça présents sur un territoire pendant un certain temps, ça permet d'engager un autre rapport avec les œuvres que le simple fait de sa diffusion.
Voilà, exactement. Et puis c'est une autre relation au public aussi. On a plus de temps, on peut les rencontrer différemment aussi. Et puis ça nourrit certains spectacles. Je parlais tout à l'heure d'Évaporer. Ils ont passé une semaine immergés complètement dans le collège à Marvejols. Ils ont dormi au collège, ils ont mangé avec les élèves. Et tout ce travail de rencontre avec les élèves nourrissait leur projet de création, voilà, par exemple. Après, ça peut être un auteur qui vient simplement pendant un mois, deux mois à Marvejols écrire son prochain recueil, et puis on va l'utiliser quelques de temps en temps pour aller rencontrer ou des élèves ou faire une lecture à la bibliothèque ou ainsi de suite. Donc pour moi c'était important puisque ça nourrit à la fois la programmation, ça nourrit les rencontres avec le public et ça crée des échanges qui permettent d'aller plus loin dans le travail.
Est-ce que c'est quelque chose qui est très suivi en France sur les lieux comme ça de diffusion, la résidence?
Oui, on retrouve ce principe dans pas mal d'endroits, parce que de plus en plus, vu la précarité un petit peu de la création, les artistes ont besoin de lieux qui puissent les accueillir, qui peuvent mettre à disposition un lieu de travail, des lieux d'hébergement assez sympathiques, et de les mettre dans des conditions de travail agréables pour permettre de poursuivre leurs activités, oui.
Alors, très récemment, justement, sur la ville de Mantes, ça a été le cas avec Isabelle Sans Visage, Les Nuits Claires, donc,
oui.
Qui reviendra au mois de mars présenter ce travail-là pendant une semaine. Donc ils sont venus en résidence à l'Espace des Anges. Ça a été aussi le cas avec Tabula Rasa, donc une compagnie que tu avais accueillie, je crois, aussi.
Hein, oui, dans, les deux, hein, puisque Les Nuits Claires, j'ai accueilli leurs deux précédents spectacles. Donc ouais. Voilà, Voyage Garé et Mon Géant. Et Tabula Rasa aussi. Ben, Tabula Rasa était dans la saison l'année dernière avec leur spectacle Fable, il y a quelques temps aussi, voilà. avec Lavare, effectivement.
Voilà. Et bientôt, on accueillera une autre compagnie jeune public aussi, départementale, compagnie Faux Mouvement, qui va créer un spectacle pour le jeune public. Et ouais. C'est vrai que ce que tu disais sur la précarité, mais aussi sur la nécessité que pour créer, il faut être plusieurs autour de la table. Il n'y a pas que la compagnie qui crée dans son coin toute seule. Il y a aussi ces médiateurs que vous êtes, ces diffuseurs qui leur donnaient aussi un rapport privilégié sur la création et puis par rapport au public qu'on peut accueillir pendant ces résidences.
Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que l'équipe artistique arrive avec leur propre personne, leurs éléments, les gens qui ont travaillé autour d'eux ou avec eux, mais aussi voilà, ils ont besoin d'un retour, ils ont besoin de voilà, qu'on les mette en contact avec d'autres personnes parce qu'un artiste en principe se pose beaucoup de questions au cours de sa création, réfléchit, cherche, essaye, et ces temps-là permettent cette avancée dans le travail, ouais, effectivement. Et c'est très riche, hein. C'est très riche pour tout le monde.
Alors moi qui suis un peu moins cultivé là, j'ai l'impression d'avoir deux monstres de la culture qui sont là, bravo quoi. Hein. Moi j'ai retenu un truc en décembre, vous allez chez Cyril Atrazik.
c'est
murs et vous allez donc à Aumont.
Voilà, c'est ça. Ben, c'est-à-dire, enfin voilà, c'est une idée. J'ai proposé ça à ces deux personnes, donc Cyril Atrazik et Franck Vigroux, qui pour moi sont deux artistes dans des univers différents. Voilà, un au fourneau, à la cuisine, un chef étoilé.
Franck Vigroux, tu parles.
Voilà. Et donc Franck, musicien émérite, voilà, qui travaille le son à sa manière. Et j'avais envie de faire rencontrer ces deux artistes qui ne se connaissaient pas. Et les deux ont de suite accepté la proposition. Alors ça sera on a mis le mot performance qui veut dire beaucoup de choses et peu à la fois. Ils vont se rencontrer. Franck va amener des platines, des disques chez Cyril. Et Cyril va faire un repas un peu spécial aussi pour cette soirée-là. Et ben voilà, c'était une idée, une envie de décaler un peu, mais surtout de montrer qu'en Lozère, on a des créateurs dans différents domaines, et puis que voilà, l'art culinaire et l'art sonore pouvaient se retrouver autour d'un moment, je l'espère, agréable.
Donc,
et sûrement étonnant.
Et musique et repas pour cette soirée-là.
Tout à fait. Voilà. On sera assis à table, on dégustera, on boira et on écoutera en même temps Franck au platine. Voilà.
En moyenne, il y a deux spectacles par mois, à peu près, c'est ça? C'est le vendredi?
À peu près, ouais, vendredi ou jeudi, d'accord. Ou des mardis aussi. On essaye aussi de s'ouvrir dans la semaine parce que je me suis rendu compte qu'on touchait des fois des gens un petit peu différents que le week-end, et ça permet aussi à des élèves de venir au spectacle en semaine plus facilement que sur le week-end, où ils sont plus difficiles à accrocher.
Sur 2015, il y a des spectacles à absolument pas rater, des coups de cœur.
Ah, c'est toujours la question piège, le fameux coup de cœur, voilà.
Ouais, alors pas le vôtre.
Non, j'ai quand même un spectacle qui m'avait beaucoup beaucoup marqué, qui s'appelle Coq Bataille, qui est alors j'ai plus la date en janvier. Voilà, c'est un Serge Grandin qui a écrit le texte, qui l'interprète sur le plateau dans une scénographie assez particulière, très très belle. Et c'est un texte plein d'émotions. Il raconte un petit peu, c'est une sorte d'autofiction sur le rapport qu'il a eu avec son père, qui est un ancien champion de boxe réunionnais. Une vie assez compliquée. C'est un spectacle qui m'avait beaucoup touché. Voilà, je prends celui-là, mais il y en aura
bientôt d'autres.
Le 30 janvier.
Le 30, merci ouais, Nicolas.
À 20h30.
Tout à fait.
Voilà, c'est toujours à 20h30, quasiment. Voilà.
Et puis on retrouvera Entrée libre aussi, hein, la semaine qui est dédiée à la poésie. J'ai l'impression qu'on a trouvé un petit peu notre voix aussi. C'est un travail que je propose avec Jean Marbourg, qui est artiste associé pour les manifestations littéraires. Et on voit que depuis 2 ans, 3 ans, les gens ont bien pris en compte ce rendez-vous-là et sont de plus en plus curieux à suivre les différents artistes qui sont programmés dans cette semaine. Oui, enfin avril, ça sera cette année.
Avril, d'accord.
Voilà, début avril.
Entrée libre, 4e édition.
Tout à fait.
Du 28 mars au 4 avril.
Voilà. Voilà.
Alors, une soirée Burkina Faso. Ça, c'est un partenariat,
c'est un partenariat. Il y en a pas mal, hein, dans la saison. Hein, je ne l'ai pas tout cité. Il y a les Scènes Croisées, il y a la Fédération des œuvres laïques, il y a les Foyers Ruraux, il y a Peuple Solidaire, il y a Tranouga, il y a la Girafe Ronde. Voilà. On essaye aussi, dans le cadre de ce travail-là, de cette saison culturelle, en partenariat avec la ville de Marvejols, d'ouvrir aux autres associations pour, là aussi, amener un regard différent, amener un public différent. Et Peuple Solidaire, nous accueillons depuis quelques temps, depuis quelques saisons, une lecture au TMT. Et là, on leur a proposé, enfin ils nous ont fait une demande de travailler avec nous, et c'est Jean Marbourg qui fera la lecture de contes africains autour de cette soirée.
Don Juan 2.0, alors là moi, mon côté geek ça me parle. Qu'est-ce que c'est qu'un Don Juan 2.0?
Alors,
c'est un donjon virtuel.
De
toute façon, ça n'existe plus, les donjons.
Don Juan 2.0, c'est une.
Ça ramène pas, Nico.
C'est une compagnie qui nous vient de Lyon, Théâtre des Asphodèles, et qui a créé ce Don Juan là, enfin qui l'a retravaillé, il le représentait cet été à Avignon sur une ancienne forme. Donc voilà, le 2.0 signifie simplement qu'il y a une vision un peu moderne de ce texte-là. Voilà, dans la scénographie, dans le jeu, on est entre la répétition et la représentation.
Donc pas forcément du numérique, mais de la nouveauté.
Non, c'est plus sur un engagement et sur une façon d'aborder le texte où on est dans une nouveauté. Mais c'est je dirais la représentation classique de la saison. Voilà.
D'accord. Une saison qui se finit donc au mois de mai.
Oui.
Ça, pourquoi pas continuer après?
Alors, parce que voilà, il faut préparer la prochaine. Et puis depuis l'année dernière, on a organisé pour la première fois donc cet été un festival de musique classique qui s'appelle Musique Emportée et qui a eu un succès assez important. Donc avec la ville de Marvejols et Charlotte et Emmanuel qui sont artistes associés là aussi avec qui on a créé et directeur artistique de ce festival, on a décidé de reconduire pour la deuxième année, donc au mois d'août 2015. Une seconde édition de ce festival. D'accord. Voilà.
Donc beaucoup de travail en perspective.
Oui.
Et vous finissez donc l'année, donc le 29 mai à 20h30 avec Flag.
Oui. Ce choix parce que c'est dans la saison où on essaye toujours, hein, voilà, moi j'aime bien que les gens puissent piocher un petit peu de tout dans la saison, du théâtre, de la musique, du conte, de la lecture, et là c'est un spectacle de danse.
Compagnie régionale.
Voilà, compagnie Yann Lheureux qui est déjà passé aussi dans le département, et cette proposition m'a beaucoup intéressé parce qu'il a demandé, c'est un spectacle qui se décompose en trois solis, là on en propose deux nous sur cette version plateau, il a demandé à un ancien champion de VTT et ensuite un Yamakasi
de BMX.
Ouais, voilà. Attention, j'ai des spécialistes, voilà. Ça n'a rien à voir. Donc cet artiste sera présent avec son BMX sur le plateau et Yann Lheureux l'a chorégraphié et après ensuite avec le Yamakasi qui a une structure aussi. Voilà. Donc j'avais envie d'aller explorer cette danse contemporaine avec deux artistes autres. Non, ça sera dans la salle polyvalente. Voilà. Ouais, il y a une structure qui est construite exprès par rapport au spectacle.
Alors c'est vrai qu'on a vu nous le spectacle, les deux spectacles, on les a vus.
Tu les as vus?
Alors je dis parce qu'on était plusieurs. Pas avec toi.
Mais c'est vrai que
ce chorégraphe est étonnant parce qu'il n'a pas peur justement de se confronter comme ça à des matériaux, à du matériel et à des performeurs.
Voilà, des personnes qui sortent, qui ne sont pas forcément des danseurs à la base. Voilà.
Mais quand on voit le spectacle, on se dit y a un lien tellement étroit entre tout ça.
Oui, oui, oui. Ouais, ouais,
il en a fait une lecture qui est vraiment intéressante, une mise en musique aussi qui est intéressante.
Oui, oui. Ouais, ouais. Oui, ça devient un spectacle pour moi qui est totalement chorégraphique, même si effectivement.
Et qui a plein de niveaux d'entrée, et c'est intéressant parce que il n'y a pas forcément quelque chose à comprendre, mais en tout cas, il y a un niveau de lecture qui peut être fait par un public très très large, très ouvert. Et ça ressemble un peu à de la rue, c'est comme si tu invitais les gens après à aller à 48e de rue, c'est super.
Ah ben voilà, c'est un très bon lancement, il est trop fort ce Nicolas est trop fort.
Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, on se fera le relais bien sûr de ta saison tout au long pour informer, on fait de l'information aussi dans le cadre de l'agenda culturel, un partenariat avec le Conseil Général, pour informer tous nos auditeurs de la production, de la création et de la diffusion de ce qui se passe en Lozère, et c'est extrêmement riche.
Oui.
On n'a rien à envier à des grandes villes comme Montpellier.
Pas du tout, je crois qu'on...
Donc, merci à la fois pour cette programmation, à la fois pour cette sélection de spectacles de grande teneur et de grande qualité. Il y en a pour tous les goûts. Alors, n'hésitez pas. Les tarifs, peut-être, dire sur la saison.
Alors, on est sur du plein tarif à 12 euros, tarif enfant à 5 euros, tarif réduit à 8 euros. Puis, il y a plusieurs formules d'abonnement pour 6 spectacles, pour 3 des abonnements aussi jeunes. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Et pour nous, c'est très important que le prix ne soit pas une barrière supplémentaire à aller voir les spectacles d'art vivant. Donc voilà, soyez curieux, venez, on vous accueille avec plaisir. Il y a toujours un petit verre à boire à l'issue du spectacle.
Et ça, c'est vrai.
Voilà, et c'est bien, donc c'est sympa. Bien, et puis ça permet de discuter, voilà, de dire ce qu'on a ressenti du spectacle, de rencontrer les artistes aussi. Pour nous, ça c'est très important. Donc voilà.
Et les billets, on les achète où ?
Alors soit au bureau du TMT, soit le soir même du spectacle, ou par internet, on peut réserver aussi. Voilà, toutes les commodités. Et puis c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli ici pour pouvoir parler de cette saison. Et avec plaisir, je reviendrai.
Très bien, merci. À très bientôt. Et à la semaine prochaine. Salut Fredo.
Salut Nico.
On termine donc cette émission avec l'agenda culturel, pile poil dans les temps. Et la suite de votre programme. À bientôt, merci.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48 FM.
Votre agenda culturel du mardi 30 septembre au lundi 6 octobre. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marie. Donc ce mardi 30 septembre, on aura du ciné-théâtre à Saint-Gilles-d'Apché, l'Ermitage dévoilé 250 ans d'histoire, un documentaire sur l'un des musées, celui de Saint-Pétersbourg, les plus vastes et prestigieux du monde. Pour en découvrir les collections riches et fascinantes, l'histoire tumultueuse et l'architecture exemplaire, c'est à 20h30. 6,80€, 5,80€ et tarif enfant à 4€ au Ciné-Théâtre de Saint-Chély.
Au cinéma Trianon de Mans de ce soir, Les Vivants. Alors c'est Sita qui est autrichienne et qui a 25 ans. Elle vit à Berlin et travaille pour une chaîne de télévision. De passage en Autriche pour assister à l'anniversaire de son grand-père, elle découvre une photo de lui en costume SS. Elle va partir sur les traces de ce passé familial qu'on lui a caché. Alors mardi 30 septembre à la chapelle de l'hôpital de Saint-Alban, de la musique et de la danse avec Trait d'Union. Rencontre avec Nicolas Blanc pour nous en parler.
Bonjour, c'est le troisième rendez-vous de cette manifestation Trait d'Union. L'idée, c'est d'inviter une compagnie à présenter un projet artistique en cours de fabrication. Cette année, nous avons invité la compagnie de danse, la Zampa. C'est une compagnie qui est installée sur la ville de Nîmes et qui nous propose un moment, partager ensemble un moment autour du thème de la résistance. Le thème de la résistance, il a été choisi parce que Saint-Alban est un foyer de résistance, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait aussi un écho à l'exposition d'art brut, qui avait aussi cette thématique. Et donc on a trouvé ça intéressant de prolonger ce rendez-vous par une forme d'impromptu. Ce sera musical, puisqu'il est la compagnie est accompagnée par Marc Sens, qui est guitariste et improvisateur. Et le cœur de ce projet sera sur des extraits de lecture de Pasolini, ses lettres luthériennes. Voilà, rendez-vous danse, musique et texte.
Très bien, donc c'est à 18h30 ce soir à Saint-Alban. Ça s'adresse à un public de plus de 15 ans et c'est 5 euros. C'est organisé par les Scènes Croisées de Lozère.
Merci, mercredi 1er octobre à la Jeunette Verte. Toujours du cinéma, deux jours, une nuit. Sandra, aidée par son mari, n'a qu'un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu'elle puisse garder son travail. C'est un film des frères Dardenne avec Marion Cotillard, c'est à 21h, à partir de 12 ans, voilà, et c'est proposé par Cineco.
Jeudi 2 octobre, au Théâtre de Mende, du théâtre avec le spectacle Colorature. Alors ça se passe à New York en 1964, au piano d'un club de jazz en vogue, Cosme McMoon, pris de nostalgie, évoque les 12 années de sa singulière collaboration avec la cantatrice Florence Foster Jenkins. Riche héritière américaine dans les années 30, Florence Foster Jenkins se pique d'art lyrique. S'improvise soprano colorature, c'est une voix virtuose, apte à réaliser des vocalises complexes, mais inflige au plus fameux air un traitement redoutable par sa fausseté et ses fantaisies rythmiques. De leur rencontre au dernier concert à Carnegie Hall, Colorature, Mrs. Jenkins et son pianiste nous invitent à partager le destin à la fois hilarant et bouleversant de deux personnages hors du commun. Ce sera à 20h30 pour un tarif de 12 euros et de 8 euros et c'est à partir de 7 ans. C'est proposé par la ville de Mende.
Vendredi 3 octobre à la salle polyvalente de Marvejols, c'est Art de Sable, Marionnette, Musique, spectacle particulier qui s'appelle Rêve de Sable. Ce sera dans le cadre donc de l'ouverture de saison à 18h30 avec l'ambiance Tranouga. À gauche, un musicien joue sur un clavier, au centre une grande marionnette, au lointain un écran, à droite un petit dispositif, pas de suite identifiable. Puis c'est l'entrée en scène d'un artiste très singulier, Borja González, marionnettiste, circassien, plasticien. Il se fait marchand de mots en dessinant avec du sable sur une plaque de verre et nous emporte dans l'imagerie de ses rêves. Éphémère et délicate, les images qu'il crée avec une rapidité fulgurante nous entraînent au cœur de l'histoire et nous laissent sans voix. La musique inspirée du cinéma muet s'accorde à merveille avec les peintures sur sable pour un spectacle rempli d'émotions et de créativité. Ce sera 20h30, 12 euros, 8 euros, 5 euros, tout public dès 5 ans, au TMT.
Samedi 4 octobre, au Théâtre de la Rantelle, du théâtre avec les tribulations d'un voyou. C'est le prévert en colère, l'empêcheur de tourner en rond, l'agitateur d'idées constamment insoumis que Sylvain Stowski veut nous faire découvrir aux côtés de Fabrice Billon, violoncelliste, concertiste. Un voyage surprise donc au travers de textes, interviews, témoignages, musique et chansons. Le décor, une toile vierge au début du spectacle. Le peintre Richard Tisserand proposera une scénographie vivante, la poésie imagée et tissera les liens entre le texte de théâtre et la poésie chantée. En première partie à 18h30, Fabrice Billon proposera des suites de Bach au violoncelle. Le spectacle a lieu à 20h30 pour un tarif de 12 euros, 8 euros, 5 euros. C'est tout public à partir de 10 ans et c'est proposé par l'Hermine de Rheims.
Le même soir, samedi 4 octobre toujours, à Mas de Val, de la musique avec le Chœur de Lozère, l'orchestre Le Chœur de Lozère, La Belle Hélène, donc opéra de Jacques Offenbach. Sparte, Hélène, épouse du roi Ménélas, apprend que Vénus a promis à un berger l'amour de la plus belle femme du monde. Or, ce berger n'est autre que Paris, et la plus belle femme du monde n'est autre qu'Hélène, bien sûr. Quiproquo. Mensonge, rebondissement, l'intrigue se déroule sur une musique spirituelle et entraînante. Ce sera 21h, 15 euros, gratuit pour les enfants. C'est un spectacle plutôt tout public, hein, voilà. Toujours proposé par le Chœur de Lozère.
Et samedi toujours, donc à la Chapelle des Pénitents, de la musique avec le groupe Gamac, dans le cadre des toquets du CEP. Alors Gamac, c'est une grande amitié, une histoire de famille dans laquelle deux chanteurs et quatre musiciens s'élèvent contre l'individualisme, la surconsommation et la pollution qui dégradent les rapports humains jusqu'aux extrêmes. À défaut de fuir, ils fixent leur vie sur des mélodies. Habitués de la scène, le groupe pose des textes incisifs dans un pur style hip-hop sur une musique alternative pop-rock, avec des rythmiques puissantes et des harmonies délicates. Gamac nous offre un voyage musical énergique, exaltant, s'interroge et interpelle son public autour du leitmotiv « N'oublions pas de penser, n'oublions pas de rêver ». Ce sera à 21h à la Chapelle des Pénitents, à partir de 11 ans, et c'est proposé par la ville de Mende en collaboration avec l'association La Boarte et Va comme je te pousse.
Dans le cadre des toquets du CEP, voilà, vous pourrez aussi vous restaurer sur cet espace et boire un bon petit coup. Ce sera un genre de beau dégât des toquets. Merci, à la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.